Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Docteur Mayou.
Catherine, bonjour. Raphaël, Serge, bonjour. Claude. Les amis, vous avez oublié une donnée. L'ardeur sexuelle. Mm-hmm. Il y a des femmes qui sont très belles, désagréables, mais leur ardeur sexuelle va faire en sorte que la relation va se prolonger.
Mais en même temps,
il y a des femmes qui sont pas jolies, très ardentes sexuellement. Ça va jouer beaucoup pour elles.
Je suis convaincue.
Alors, incluez l'ardeur sexuelle.
Non, mais c'est parce que au premier regard, la première rencontre, là, tu le sais pas encore là, que ça, si il a ou elle a de l'ardeur sexuelle. Là.
Non, mais ça va être vérifié assez rapidement.
je l'avais inclus dans ma réflexion.
Bon. Mais vous pensez pas que... Puis je le dis avec un clin d'œil. Vous pensez pas qu'on... Des fois, tu sais, vous dites souvent, on se ment à soi-même. Dans la réalité.
À tour de bras. À tour de bras. Okay. On accuse les enfants d'être menteurs. C'est rien comparativement aux adultes et à leurs parents.
Ben, ça part de quelque part.
Mm-hmm. Hein? Ben voyons.
C'est OK.
Ça ment au Québec. Je sais pas ailleurs, mais au Québec, ça ment à tour de bras.
Je pense que pour moi, c'est assez global.
Et le mensonge d'abord à soi.
Oui. Je vous entends souvent dire ça dans l'émission. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Commencez à vous dire les vraies affaires. Mais c'est pas toujours facile. Facile de le dire, mais de l'appliquer, pas toujours.
Et ça amène une autre question.
De se l'avouer, ouais.
Ça amène une autre question. Est-ce qu'on serait prêt à avoir des relations sexuelles avec une personne qui est extrêmement laide, mais qui, au lit, performe bien? Ça, c'est une autre question aussi.
Il y a plusieurs hommes qui sont preneurs, je m'entends te le dire.
Oui. Je pense que dans ces...
Parce que dès qu'on tamise la clarté...
C'est le lendemain matin, des fois, que c'est le constat est plus difficile.
Ça fera. Tu retardes à ouvrir les rideaux.
Ou tu quittes avant. Bon, faut bien s'amuser un petit peu quand même. Alors, revenons à des choses plus sérieuses. Est-ce que je peux vous faire entendre un extrait hier dans l'émission?
Oui.
Est-ce que c'était de Paul Oud ou de Bernard Drainville? Avec Paul Oud. C'était le pharmacien Benoît Morin. Il a parlé de l'ecstasy et du LSD. Il était question de problèmes de santé mentale. Voici ce qu'il affirmait hier.
Avec une ordonnance bien contrôlée, mais aussi avec une psychothérapie, on appelle ça la psychothérapie psychédélique, ce que ça fait, c'est qu'à l'aide de ces produits-là, de ces drogues-là, à petite dose, il faut bien le dire, Paul, on vient permettre une psychothérapie chez des gens chez qui les souvenirs sont difficiles. Par exemple, dans les stress post-traumatiques, les gens hésitent à retourner en arrière parce que il y a un sentiment d'horreur, de peur intense, d'impuissance. Avec l'aide des drogues ou du médicament dans ce cas-ci, on va permettre à ces gens-là de retourner dans leurs souvenirs et d'un peu réorienter le cerveau dans ses émotions, de recréer une espèce de chemin neuronal, si vous voulez, où les gens vont ressentir les choses différemment. Et ce qui est fantastique, Paul, c'est que après 2 ou 3 séances de psychothérapie à l'aide de ces produits-là, bien, il y a des gens qui étaient réfractaires à toutes les autres formes de traitement, qui ont réussi à se guérir littéralement, c'est-à-dire ne pas seulement amoindrir les symptômes, mais de vraiment terminer, si vous voulez, la maladie dans certaines occasions. Par exemple, on parle de dépression majeure qui était réfractaire à d'autres traitements, mais il y a eu vraiment des cas où ça s'est vraiment avéré positif.
Avec un micro ouvert, ça va bien. Est-ce que l'ecstasy et le LSD peuvent être utilisés soit dans des cas de psychose ou même de dépression majeure?
On verra les résultats, Catherine. Ça ne me tente pas d'essayer ça.
Non, moi non plus. Non, mais est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez?
Je vais passer mon tour. Oui, bien, j'en entends parler.
OK.
Mais je passe mon tour. Je vais faire halluciner quelqu'un, là.
OK, mais donc, c'est pas quelque chose qui... Mais c'est quelque chose qui est utilisé. C'est bien ça?
Bien, écoute, on en parle.
OK.
Il n'y a rien, là. Il n'y a rien qui sous-tend quoi que ce soit, là.
Parce qu'on dirait que ça m'inquiète un peu.
On va... Écoute, c'est une prétention.
OK.
On a entendu, là, l'individu.
OK.
J'embarque pas du tout.
Non? OK, parfait. Non. Bon, ben on va attendre, puis on verra si dans les prochains mois, si ça fait du chemin. On peut-tu parler un peu de jalousie extrême?
C'est dangereux, dangereux.
Je vous replace en contexte ainsi que des auditeurs. C'est cette femme qui est toujours portée disparue, Christine Saint-Onge, 41 ans de Laval. Elle est partie au Mexique avec Pierre Bergeron. Et elle n'est jamais revenue. Lui est revenu et le lendemain de son retour, s'est enlevé la vie. Et ce qu'on apprend via le Journal de Montréal ce matin, une ex-conjointe de Pierre Bergeron a raconté l'enfer qu'elle a vécu. Cette relation basée sur la violence et le mensonge, elle le décrit comme un homme contrôlant, manipulateur et terrorisant. Elle parle entre autres de vacances dans le sud où elle a été pratiquement enfermée dans sa villa toute la semaine, des excès de colère parce qu'elle avait fraternisé avec une connaissance sur la plage avec un couple qui jouait au volleyball. Elle relate une soirée où il essayait d'avoir une relation sexuelle non consentante pour la punir d'être revenue plus tard que prévu d'une transfusion sanguine et d'une pose d'ongles.
Bon, elle l'a rencontré où, son Gus?
Ça ne le dit pas.
Dans un gymnase.
Ah oui, dans un gymnase? OK, je m'excuse,
j'avais rappelé ce mot-là. Comment il a fait pour avoir autant de muscles, M. Muscle? Il est possible, scénario, qu'il ait pris des stéroïdes anabolisants. Savez-vous qu'est-ce que ça fait sur plusieurs hommes?
Ça les rend violents?
Ils deviennent agressifs. Ils deviennent très agressifs avec leur masse musculaire. Et moi, je trouve ça absolument incroyable que cette femme-là déclare publiquement qu'elle craignait le jour où son Gus, qui s'est suicidé maintenant, retrouverait ses armes qui lui avaient été enlevées. Écoute, il est où le problème, Catherine? Est-ce qu'un homme a besoin d'une carabine pour tuer une femme? On est en 2018, là. Moi, je comprends pas cette naïveté féminine. Là, c'est à toi que je m'adresse. Ouais. Explique-moi. Déniaise-moi ce matin.
Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi votre question exactement?
Elle avait peur, elle craignait le jour. Elle était séparée, puis elle craignait le jour où il retrouverait ses armes, insinuant qu'elle craindrait davantage pour sa sécurité. Mais c'est quoi cette affaire-là?
Ben, en fait, j'avoue que moi aussi, je me suis posé la question, parce que de ce que je comprends de son historique, il avait été violent, contrôlant et jaloux à l'extrême depuis... Écoute, elle le dit, il y a un voyage au Mexique en 2014, je pensais qu'il allait me tuer. Alors, visiblement, il n'y avait pas besoin d'une arme pour la tuer. Avec la
quand
force...
Quand est-ce qu'on va arrêter de niaiser avec les carabines? On entretient chez les femmes une espèce de légende urbaine qu'un homme est plus dangereux pour elles lorsqu'il y a une carabine. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme au Mexique, là?
On le sait pas encore.
Hein, le scénario le plus probable, c'est quoi? Le gars, Bergeron, il l'a étranglé de ses mains. C'est ça le scénario le plus probable.
Possiblement, oui. En tout cas, c'est tout.
Ben, elle entretient. Non, mais il y a quelque chose d'extrêmement malsain ici. Où on entretient chez les femmes une crainte naïve, pour ne pas dire niaise, des armes à feu concernant leur sécurité. J'ai eu à maintes reprises des confidences d'hommes et de femmes qui ont eu des mains sur la gorge, qui ont perdu connaissance.
Oui.
Tu sais, il faudrait arrêter de niaiser.
Ben, sais-tu.
Un gars qui est dangereux, qu'il soit armé ou pas, il est dangereux pour une femme. Il va l'étrangler. Hey. C'est la réaction la plus. La réaction agressive la plus fréquente,
ouais.
Catherine.
Oui. Étrangler, frapper.
De ses mains.
Oui.
Mais. Ce matin, ouvre les lignes un peu, puis demande à des femmes si elles ont déjà eu des mains sur la gorge. Je l'ai tellement entendu dans ma pratique, là.
Oui, ça arrive sûrement, oui, souvent. Mais tu sais, on peut se questionner aussi sur les... Parce qu'il avait été accusé de voies de fait à l'époque et d'utilisation négligente d'une arme. Plaide coupable, sentir avec une absolution inconditionnelle. Puis il fait un don à un organisme qui vient en aide aux femmes violentées. Ça aussi, Dr Mayhew, c'est du gros n'importe quoi.
Oui.
Le gars est violent. C'est un violent confirmé. Avec toutes les histoires, hey, une absolution inconditionnelle fait un don. C'est une blague, là.
Ouais, alors, il faudrait demander à cette femme-là qui sort publiquement, Alex, qui est encore vivante, à ta connaissance, prenais-tu des stéroïdes, ton monsieur muscle? Ou bien c'était une tête faible naturelle?
Oui, vous posez une question pertinente. Mais donc, est-ce que...
Hey, dans le gymnase, il y a un commerce de stéroïdes anabolisants. Personne n'en parle.
Est-ce que ça a le même effet sur la plupart des hommes ou...
Oui, la plupart.
Oui. Donc, ils deviennent plus violents?
Pas tous, mais plusieurs, à des degrés différents. plus violent, plus agressif, plus irritable, plus agressif et possiblement plus violent. Maintenant, un jaloux n'a pas besoin de stéroïdes anabolisants, là. J'ai eu tellement de confidences là-dessus. Mmh. Ils sont... Mesdames, ne partez pas dans un coin isolé avec un jaloux. C'est toujours dangereux. Ouais. Surtout dans le bois. Dans un chalet, là, je peux dire qu'il y a une maudite gang qui ont eu peur.
Il y a Mario qui est en bout de ligne qui aurait une question, Dr. Mayo. Bonjour, Mario.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous écoutez?
Oui, Mario.
Je voulais savoir d'où vient le phénomène de jalousie, possessif ou maladif, ou peu importe. Là. Il y en a qui sont jaloux normal, un petit peu, puis il y en a qui sont jaloux possessifs, puis il y en a qui sont jaloux maladifs. Mais d'où vient ce comportement-là? Je veux dire, c'est pas tout le monde, quand même.
Non, non.
C'est un instinct animal. qui varie beaucoup d'une personne à l'autre. Alors, ceux qui connaissent un peu les comportements des chevaux sauvages savent qu'un étalon, si un autre s'approche de son harem de femelle, ben il va le battre jusqu'à temps que l'autre se sauve ou qu'il y ait un mort. Alors, il y a à des degrés différents chez les mammifères, il peut y avoir un instinct de mâle, puis allant même jusqu'à l'instinct de tuer. Alors, l'être humain n'a pas été créé par Dieu. Il est malheureusement à la fin du phylum des mammifères et avec toutes sortes de comportements qu'on retrouve chez les mammifères.
OK. Merci, Mario.
Ah ben, coudonc.
C'est un instinct. C'est du domaine de l'instinct. Il y a des hommes qui sont corrects, puis il y en a d'autres qui le sont moins ou beaucoup moins.
OK. Merci, Mario.
Okay,
merci, bonne journée. Dr. Mayo, on s'arrête. On vous retrouve à la commission PM avec Robert.
Ouais. Et c'est de famille, Catherine.
Oui.
Alors, si tu prends, tu regardes, tu examines dans des familles, lorsqu'il y a des jaloux, là, c'est transmissible génétiquement d'une génération à l'autre.
OK.
Oui. Sans nécessairement que ce soit tous les cas qu'il l'est.
Non, je vous suis. OK, alors, on y reviendra, Dr. Mayo.
C'est une caractéristique transmissible génétiquement.
OK, on s'arrête. On vous retrouve à la commission PM. À tantôt, oui. Dr. Mayo, 9h05.